Charles de
C'est quoi pour demander un peu de silence? Écoute-moi, il paraît que c'est l'anniversaire de quelqu'un, donc bon anniversaire, voilà, ça c'est bon, c'est fait, c'est dit, c'est pas la peine de s'étaler sur ces choses-là. Profitez de vos anniversaires pour grandir en maturité aussi vite qu'en âge. Il s'agit d'être sage. Alors je vous souhaite de grandir en sagesse. Comme on vous l'a dit, c'est vrai que cette temps de prière, d'intercession qu'on a fait avec le rosaire, c'est un temps fort, mais c'est pas forcément le plus grand temps fort que vous aurez vécu pendant votre retraite. Moi je pense surtout le plus grand des temps forts, c'est évidemment toujours la messe, ce matin l'Eucharistie, la célébration de la mort et la résurrection du Christ et notre participation à la mort et la résurrection du Christ. La messe, c'est le sommet de notre vie, c'est le sommet de notre vie chrétienne, c'est le sommet de tout quoi. Donc souvenez-vous de cette messe ce matin. Et peut-être encore que pour vous, mais c'est vrai aussi pour chacun, pour moi, de la manière dont j'ai vécu aussi, le moment le plus fort, je dirais d'un point de vue affectif, le moment le plus fort où humainement, et puis avec toute ma sensibilité et aussi toute ma spiritualité, je me suis senti le plus près de Dieu. Bon, il y a eu la messe, effectivement. Bon, je n'étais pas ici, j'étais ailleurs, mais la messe doit être un temps fort comme ça. Mais là où on se sent le plus engagé, là où on se sent le plus investi, c'est peut-être, je l'espère en tout cas, ce que vous avez pu vivre hier soir, devant le Saint-Sacrement, avec l'adoration. Jésus est là, Dieu est là, le Christ ressuscité est là. Nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant dans la gloire du ciel, et il est là. Et puis vous en avez profité pour vous confesser, et donc comme ça c'est toute votre vie, même dans les misères de votre vie, même dans les faiblesses de votre vie, même là où vous vous êtes éloigné de Dieu dans votre vie, bien tout cela est imprégné de cette présence de Dieu. J'espère que vous garderez bien imprimé dans votre mémoire ces moments forts de la présence de ce que vous avez vécu hier soir quoi. Je voudrais aussi que vous en ayez profité pour, dans l'élan d'hier soir, puis peut-être avec la messe ce matin, pour trouver au fond de vous une force nouvelle pour vous engager dans une amitié pour Dieu, dans une fidélité vis-à-vis de Dieu, et pourquoi pas laisser mûrir aussi en vous la question de la vocation. Hein, vous êtes faits, nous sommes faits pour offrir notre vie à Dieu. La célébration de la messe, c'est cela, c'est l'offrande de notre vie en communion avec celle du Christ. Donc, profitez-en aussi pour penser à votre vocation. Mais pour penser à votre vocation, vous avez le droit d'y penser dès maintenant. J'espère qu'on n'avait pas attendu d'ailleurs que je vous le dise. Mais avant de pouvoir y apporter une réponse ferme, il faut avoir une certaine maturité. Pas à 14-15 ans qu'on est prêt à donner sa vie. D'ailleurs, vous allez recevoir le sacrement de confirmation pour grandir dans cette maturité et être capable, effectivement, suffisamment posséder votre vie pour être capable de la donner. Je ne sais pas si vous allez prendre des notes, mais ça, c'est un petit truc à noter. Ou au moins dans le coin de votre tête. Je ne sais pas tout noter sur le papier pour l'oublier tout de suite après. Vous serez mûr quand vous serez capable de donner votre vie. Et quand vous serez capable de donner votre vie, c'est que vous serez capable de posséder votre vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Eh bien, la vie, pour le moment, vous l'avez reçue de vos parents. Vous l'avez reçue de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous l'avez reçue de vos parents, c'est votre vie humaine. Et toute votre enfance, eh bien, vous l'avez vécue sans vous en rendre compte. Et aujourd'hui, à l'âge de l'adolescence, et ça peut durer encore un certain nombre d'années, progressivement, vous prenez possession de votre vie jusqu'au jour où vous possédez votre vie et à ce moment-là, vous serez capable de la donner. Il n'y a pas d'âge pour ça, mais je vous souhaite de mûrir rapidement, d'être sage rapidement, de posséder votre vie rapidement pour pouvoir la donner, pas pour la garder comme un égoïste. Vous devez vous rendre compte au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous mûrissez, de toutes ces dimensions de votre vie, de tous les talents que Dieu a mis en vous, de toute la capacité que Dieu, toutes les capacités que Dieu a mis en vous, vous pouvez très bien les utiliser pour vous-même, vous pouvez aussi les utiliser pour les autres, vous pouvez aussi les utiliser pour Dieu. Voilà. Et c'est important de savoir donner les choses, donner ce que vous avez reçu, rendre ce que vous avez reçu. Et parce que si on vous parle de l'amour, Dieu est amour, donc, que ce soit l'amour vis-à-vis de Dieu, que ce soit l'amitié que nous pouvons avoir pour nos frères, la charité que nous avons vis-à-vis de nos frères au nom donc de l'amour de Dieu, l'amour se résonne dans cette capacité de donner sa vie. Voilà, je voudrais avec vous, comme introduction, autour du mot amour précisément, que je vais écrire en rouge, très rapidement, faire une sorte de petit brainstorming. Si je vous dis amour, à quoi vous pensez immédiatement? Chacun vous réfléchissez, vous trouvez un mot, puis ceux qui le désirent, vous levez la main, vous le dites. Marcel. Ouais. Parle bien fort parce que je ne vais rien entendre. Charité. C'est bien, vous battez d'en haut. Hein. Pour la descente jusqu'en bas. Hein. Charité. Je connais quelque chose là. Affection.
À mes parents.
C'est beau.
À moi.
Marie.
Siri.
C'est beau. La Vierge Marie.
Il y a Siri qui va avec Marie.
Quand on vous dit amour, vous pensez à Siri et Marie, c'est ça?
Oh non!
Allez, d'autres mots, là vous n'êtes pas encore descendu assez bas.
Entre les filles et les garçons. Amour, filles, garçons.
Vous avez une humanité pas du tout complète là. Il y a Dieu parfait, il y a bon les saints, la Marie, la charité, la question de la raison, tout ce qui concerne ça. Moi, ça c'est très important, savoir s'aimer. Mais il manque quelque chose. Dans l'humanité, nous avons tous un corps. L'homme, la femme, bon bah c'est un petit peu mis. Voilà, son garçon-fille, vous m'avez dit, c'est compris dedans.
La sexualité.
Sexualité, voilà, c'est surtout ça que vous m'entendez. Oui, ah, non, on ne nous est pas dit, vous avez commencé par Dieu. Avec d'autres groupes de jeunes, quand on fait ça, c'est le premier truc qui sort, quoi. L'amour, le sexe. Puis après, on pense à Dieu éventuellement. Ah oui, on a oublié Dieu. Si on va dire l'amour, je ne veux vraiment pas le rapport, quoi. Bon, allez. Donc vous voyez, c'est très complexe. Le mot amour, tout est juste, il n'y a pas de. Ça revêt mille choses, quoi. Donc finalement, ce qui se passe finalement aujourd'hui, dans notre société actuelle, c'est que le mot amour, grosso modo, personne ne sait ce qu'il signifie. Et les gens mélangent tout. Vous avez un pape qui écrit « Dieu est amour ». Voilà. Il en fait 50 pages de méditation sur « Dieu est amour ». Vous avez le pape d'avant qui avait écrit plein de bouquins sur la sexualité, la relation entre l'époux et l'épouse dans le sacrement du mariage. Vous avez les jeunes qui font n'importe quoi dans n'importe quelle société avec leur corps, avec leur sexe, et puis qui ne savent pas du tout gérer leurs affections entre eux, voire des fois intergénérationnelles. on ne sait plus, vous avez des grands-parents qui se comportent comme des enfants, vous avez des enfants qui sont obligés de se comporter comme des adultes. C'est un petit peu le drame pour vous, pour votre génération. M'écoutez, c'est qu'on vous laisse rarement le temps d'être adolescent d'une certaine manière. J'étais enfant, puis d'un seul coup, et c'est de votre faute aussi, vous ne vous laissez pas ce temps-là, d'un seul coup, on vous demande d'avoir des comportements d'adulte. Or, vous voyez, par exemple, on vous demande le silence. Ça, si on est obligé de vous demander le silence, c'est que vous avez un comportement de pur enfant. Et pourquoi vous restez dans l'enfance? Parce qu'on vous autorise pas, finalement, à la société qui est mal faite, hein, aujourd'hui. On vous laisse pas le temps de mûrir, de vivre votre vie d'adolescent, et pour, avant d'assumer, en particulier au niveau de... la mixité, des questions comme ça, on vous fait croire avec le matraquage médiatique que vous pouvez flirter à droite, à gauche, en haut, en bas, comme vous voulez, dans tous les sens. Et puis finalement, on vous fait jouer avec des jeux d'adultes alors que vous n'en avez pas la maturité. Et c'est ça qui fait que bien, vous-même, votre génération, mais je pourrais me mettre dedans parce que ça fait quelques dizaines d'années que ça dure, ça. On constate qu'on ne sait plus gérer notre affectivité, on ne sait plus gérer notre vie relationnelle les uns avec les autres, soit garçon, fille ou simplement avec les amis. Tout le tabou de l'homosexualité aussi, aujourd'hui, on aurait pu le rajouter dedans. C'est un des signes que on ne sait plus gérer nos relations entre nous. Voilà. Le mot amour, là vous en êtes la preuve vivante là. Le mot amour revêt tout cela. Alors il faut essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces questions et savoir véritablement ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amitié. Pour moi, souvent quand je parle avec des jeunes, vous faites une grande différence entre le mot amour et le mot amitié. C'est vrai qu'on essaie de repartir à zéro et de vous dire que l'amour et l'amitié, finalement, c'est la même chose, ça a le même fondement. C'est le même fondement et c'est finalement Dieu qui, en se révélant, nous a montré comment aimer. Donc il y a deux sortes, pour moi, il y a deux sortes d'amour. Donc j'efface tout ça, hein, vous avez compris, c'était un jeu. Il y a deux comportements, deux attitudes dans l'amour qui sont assez simples. Vous avez l'amour don, je me donne, et vous avez l'amour possession. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. En français, on dit j'aime. On utilise le verbe aimer pour tout. Vous aimez la crème au chocolat. Vous aimez les fleurs. Vous aimez les animaux. Mais aussi, vous aimez vos parents. Vous aimez votre petite amie ou votre petite copine. Et puis aussi, vous aimez Dieu. Et vous aimez aussi les Chinois parce que vous voulez travailler le chinois. Et vous aimez, enfin, avec le même mot, on dit tout et n'importe quoi. Et par exemple, imaginez Dieu qui vous rencontre et puis qui, au moment de votre mort, vous allez rencontrer Dieu. Il va vous dire, alors voilà, tu vois, à chaque fois tu disais j'aime, mais moi je regardais de la manière dont tu aimais. Et quand tu me disais j'aime les fleurs, tu les coupais pour les mettre dans des vases. Quand tu me disais j'aime les oiseaux, tu les mettais en cage. Quand tu me disais j'aime les pommes, ben, tu croquais dedans. Puis quand tu me disais Dieu je t'aime, eh bien moi Dieu j'avais peur. Vous voyez le comportement qu'on a devant l'amour. On n'a pas du tout envie d'être aimé de cette manière-là. Vous voyez ? Donc le mot amour, la manière dont on va aimer est piégée. Et souvent, le passage pour vous de l'enfance où vous recevez tout, les autres vivent de dons autour de vous, vous donne en permanence, vous avez tout reçu. L'être humain, depuis la création, depuis sa conception, l'être humain c'est un être réceptacle qui reçoit tout. Il se reçoit à lui-même, il reçoit son être, il reçoit sa sexualité. Vous n'avez pas choisi d'être un garçon ou une fille, vous n'avez pas choisi d'être votre personnalité. Tout ce qui fait votre être, tout ce qui vous distingue, vous avez tout reçu. Rien ne vient de vous, vous n'avez rien fait, vous avez tout reçu. Et maintenant, vous êtes à l'âge où tout doit basculer, et ça doit être l'inverse. Vous devez maintenant donner. vous serez capable de vous donner votre personne, donner votre aide, donner vos talents à la société, à vos frères, à vos amis, à votre époux, à votre épouse, à Dieu. Vous allez être amené à donner. Et si vous avez reçu des talents, vous allez être amené à les utiliser pour les mettre au service. Alors il vous faut passer de la possession au don. Je vais vous donner une autre image pour comprendre ce passage de la possession au don. C'est une image très, très amusante. Enfin, c'est un proverbe touareg des Arabes là, dans le désert, dans le désert du Sahara. Ils ont remarqué que l'enfant, quand il naît, quand un enfant naît, il naît toujours les bras, il est recroquevillé sur lui-même, il a les bras fermés et les poings fermés aussi. Ah, vous la connaissez déjà ? Ah, c'est Pierre Paul qui vous l'a dit. Alors je vais vous donner la source de ce truc-là, c'est notre évêque, Monseigneur Boulanger, parce qu'il est spécialiste des Touaregs comme Charles de Foucault. C'est lui qui nous a sorti ça la première fois. On met toute la vie. Et vous voyez Jésus comment il est mort sur la croix, donc les mains ouvertes. Et comme elles n'étaient pas encore assez ouvertes, ses mains, on a fait des trous dedans. C'est d'or. Ben oui. Donc vous voyez, toute notre vie, on est amené comme ça à s'ouvrir. Au début, on est reçu à soi-même, et finalement, on doit terminer en se donnant soi-même. Et finalement, si vous voulez. Pour rejoindre un petit peu le thème de mon Dijon, de méditation sur l'au-delà, la vie éternelle, la mort et la préparation aussi de la mort, on est prêt à mourir quand on a tout donné. Alors vous avez des saints qui ont vécu de cela. Ils ont déjà tout donné. Même à 15 ans, c'est possible d'avoir déjà tout donné et donc de vivre dans une liberté totale. Une fois qu'on a tout donné, on est libre. Pensez que ce sont des choses liées. La maturité qu'on vous demande, la capacité qu'on vous demande à vous donner, et puis la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est très très lié à l'amour, finalement. La liberté, c'est je suis suffisamment libre pour être capable de donner ce que j'ai, pour être capable de donner ce que je suis, pour être capable de donner mon être. La liberté, c'est pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal, c'est pas la possibilité de choisir le tout et le contraire de tout. La liberté ne se situe pas à ce niveau binaire là, bien, mal. La liberté, elle est enracinée en nous, et on est capable, je suis libre, quand je suis capable de, effectivement, m'engager dans le bien. Mais ma liberté, je ne peux pas utiliser ma liberté pour faire le mal. Vous voyez, c'est pas binaire, c'est pas je fais le bien, je fais le mal, c'est ma liberté, et puis finalement, il n'y a ni bien ni mal, puisque je suis libre de faire tout ce que je veux. Ben non, je ne suis libre que de faire le bien. Ma liberté, c'est ma possibilité d'agir pour faire le bien. Elle est orientée, la liberté. Elle est orientée déjà dans le bien qui est défini par autre chose que nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos propres dieux, nous ne sommes pas nos propres rois. Ce n'est pas à vous de définir. Mais j'ai envie de faire ça, donc c'est bien. J'ai décidé que je pouvais faire n'importe quoi avec mon corps, par exemple, ou parce que c'est la norme du bien serait floue. Aujourd'hui, vous avez la société entière qui vous dit « Mais oui, déjà, vous pouvez flirter, vous pouvez... et où est le bien, où est le mal ? Bah, c'est pas si mal que ça, de flirter, etc. » Eh bien, oui, mais ça fausse toutes vos... Enfin, tout ce que vous êtes. Ça biaise votre être. Ça nuit, ça détruit votre liberté, votre capacité ensuite de vous donner véritablement à... Dans un véritable amour. Une petite chose aussi par rapport. Donc, je voudrais vous parler un petit peu de l'amitié. Un autre exemple aussi, vous avez ce qu'on appelle, c'est une image assez amusante, l'amour confiture. Vous aimez la confiture. Et quand on mange de la confiture, tellement on l'aime, oui, ça rejoint un petit peu l'image de tout à l'heure, là. Bah, on mettait là, l'amour de confiture, l'amour de Nicolas, c'est pareil. Bah, vous mangez votre confiture, puis quand vous n'avez plus de confiture, qu'est-ce que vous faites ? Vous jetez le pot et vous en prenez un autre. Eh bien, méfiez-vous qu'avec l'amitié que vous avez les uns pour les autres, vous ne fassiez pas la même chose. Et bien, que vous ne risquiez pas d'épuiser complètement la personne que vous prétendez aimer, en la dévorant complètement. Une fois qu'elle est épuisée, ben vous l'achetez, vous en prenez une autre. Et là, c'est ce que fait tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de monde aujourd'hui. Vous regardez, entre vous les jeunes, je ne sais pas au niveau de votre ce que vous êtes là, mais moi je vois beaucoup de jeunes qui passent, les mecs qui passent d'une fille à l'autre, quoi. Il n'y a aucun problème. Ouais, ça va, ça tient 15 jours, 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, on largue, et puis on en a pris une autre, parce que voilà, il faut bien changer. Quoi. Si vous vagabondez comme ça, n'importe comment, simplement au niveau de l'amitié purement platonique, si vous voulez, sans même penser au flirt ou autre chose, ou à pire, parce que le pire arrive aussi, si vous jouez comme ça, finalement, vous terminez par blinder complètement votre cœur et votre capacité à aimer. Pensez que votre personne, c'est un tout. Vous n'avez pas dans un coin votre intellect qui vous dit, ben voilà, moi je voudrais choisir telle ou telle chose, je voudrais aimer telle ou telle personne, ou moins aimer, ou faire autre chose vis-à-vis des autres. Puis à côté le cœur, qui va avoir son affectivité. Puis après, à côté le corps. Alors le corps, bon, on s'en fout, c'est vraiment pas important, le corps c'est que de la matière, on peut pas se trouver avec son corps, ce qu'il faut c'est garder l'intelligence et puis le cœur à peu près intact, etc. Comme si on était plusieurs compartiments dans la personne humaine. Or non, notre personne humaine forme un tout, elle est absolument unifiée. Et de jouer avec son corps, ça détruit le cœur et ça détruit aussi l'intelligence. Et de passer comme ça d'un ami à l'autre sans respecter l'autre, eh bien, ça imprime en vous, ça nous détruit tout simplement. Quoi. Notre cœur s'abîme. Si vous jouez avec vos sentiments ou si vous jouez avec les sentiments d'un autre, d'une autre, eh bien, vous risquez gros, vraiment, vous risquez gros, vous risquez en particulier de vous retrouver incapable de jamais aimer, incapable de jamais être stable en amour, incapable de demeurer dans une fidélité. Vous voyez le nombre de couples, de parents qui, même au bout de 5 ou 10 ans de mariage, divorcent, si c'est pas moins. Il n'y a plus de stabilité possible, pardon. Il y a plus de stabilité possible là parce que on n'a pas fait gaffe quand on était adolescent et on a joué avec ces sentiments. Je vous invite à être très très respectueux d'autrui en matière d'amitié. Ayez des amis, choisissez vos amis, mais et donnez-vous à eux, donnez-vous toute cette amitié, vivez-en, profitez-en pleinement à tous les niveaux, garçons, filles, il n'y a pas du tout d'amitié, c'est quelque chose de très pur, de très grand, de très beau. Donc je vous encourage à avoir cette amitié, mais justement je vous encourage aussi à avoir un grand respect de l'autre, parce qu'il est votre ami. Ne jouez pas ni avec son corps, ni avec ses sentiments, ni ne trompez pas l'autre, ne trichez jamais en matière d'amitié. Donc ayez le maximum d'amis possible si vous voulez, garçons, filles, comme vous voulez, et ne vous inquiétez pas sur l'avenir, mais vous avez le temps avant de vous déterminer et de choisir l'élu, celui ou celle qui sera, donc si vous voulez vous engager dans les voies du mariage, celui ou celle que vous choisirez pour demeurer dans une relation plus stable et plus fidèle à travers le mariage. Vous n'en êtes pas encore là, donc soyez vigilants. Et pensez à une chose, c'est que si vous jouez avec les sentiments de l'autre, vous détruisez le cœur de l'autre aussi. Surtout les garçons, parce qu'en fait on pense toujours un peu trop dans ce sens-là, mais les garçons, faites attention au cœur des filles. C'est tendre, le cœur d'une fille. Il y a des chansons qui disaient, voilà, le marin qui passe sur le quai, descendant de son bateau, il tombe sur la première fille, il ne la connaissait pas, évidemment, il n'est pas de ce port-là, il en est d'un autre. Et il flirte comme ça au passage, et puis la fille, elle croit que c'est le prince charmant, c'est le garçon avec qui je dois épouser. Les garçons, ils sont fous complètement, quoi. Demain, il prend le bateau, il va dans un autre port, et puis il recommence. Et puis la chanson se termine en disant, ben voilà, mais maintenant mon cœur est brisé. Et mon cœur est brisé, et un cœur, ça se répare pas. Il n'y a pas de réparation du cœur. S'il y en a une, vous voyez, c'est le garagiste du cœur, ça s'appelle Jésus. Vous aurez l'occasion éventuellement. Mais c'est quand même toujours dommage, à 15 ans, de voir des filles avec le cœur brisé à cause d'un flirt. Il suffit d'un flirt. Il suffit d'un baiser sur un banc public, comme dit la chanson. Il suffit de rien du tout. Et les gars, on s'en fout, nous. Les gars, hop, on passe. Bah ouais, c'est une fille, ça va jouer avec d'autres. Un flirt, ça compte ça. Enfin, on est beaucoup plus. Les garçons sont très sectorisés. On peut avoir un flirt avec une fille, un deuxième flirt avec une autre, ça ne nous gênera pas, quoi. Mais la fille, elle est beaucoup plus unifiée dans son être, Et si vous touchez un tout petit coin, eh bien vous la brisez complètement. C'est un vase de cristal très fragile. Je ne dis pas ça pour faire de l'antiféminisme. Vous avez vos forces, mesdemoiselles, mais je le dis ça pour les garçons, pour qu'ils vous respectent. Mais vous, les filles aussi, provoquez pas les garçons. On voit des filles, ça va, moi je suis en robe longue, hein, ben, d'autres c'est pas ça. Et ça c'est très provocateur, évidemment les garçons ils voient ça. Et après, vous ne connaissez pas, ah ben il m'a brisé mon cœur. Eh ben oui, mais ça, ma fille, il fallait faire un petit peu plus d'attention. Évidemment, on aime bien, vous jeunes filles, je suis sûr que peut-être même vos parents vous y provoquent, à ce que ben, vous soyez gracieuses, vous soyez belles à voir. C'est important, mais ne provoquez pas les garçons. Je vais vous donner une autre image pour comprendre la différence entre un garçon et une fille. Peut-être que vous la connaissez déjà. Est-ce que vous connaissez la différence entre un armoire et une armoire et une commode? Alors, il y a des grandes armoires, mais vous pouvez imaginer une commode aussi grande que l'armoire. Dans une armoire, vous avez des portes. Quand vous ouvrez les portes, vous avez toutes les étagères et tout est ouvert. Vous ouvrez l'armoire et d'un coup, vous avez tout. Si elle est mal rangée, tout vous tombe dessus. Ça peut arriver. Dans une commode, vous avez les tiroirs. Il y a le tiroir où vous rangez vos cours de maths. Il y a le tiroir où vous rangez vos cours de caté. Il y a le tiroir où vous rangez votre vraie relation à Dieu. C'est pas forcément la même chose que le caté. Il y a le tiroir où vous rangez votre première copine, votre deuxième copine, votre troisième copine. Enfin, chacun a son tiroir. Alors les garçons, c'est le schéma commode. Les garçons sont très sectorisés. Ils sont capables de passer d'un truc à l'autre sans problème. Par contre, ils ne sont pas capables de faire deux choses à la fois. C'est assez marrant, ça. Ah oui, il faut choisir. Vous allez vous donner un fond dans un truc. On voit des gars, par exemple, des jeunes mariés. Le gars, il vient juste de se marier, mais il a gardé son trip, quoi. C'était de faire, je sais pas quoi, du modélisme ou de la moto dimanche après-midi. Il reste à fond là-dedans. Il ne se rend même pas compte qu'il a sa femme à côté qui laisse sur le carreau. Ça arrive et ça fait des drames. Alors les garçons, on est comme ça, quoi. Vous allez vous donner à fond dans un truc et vous n'allez pas voir que « Ah, il y a une fille à côté de moi. Ah, ben, j'ai même pas vu. » Par contre, c'est inverse. Des fois, vous allez tomber sur la fille et puis en tout reste, elle va complètement tomber à l'as, quoi. Vous ne ferez plus rien. Vous ne bosserez plus, tout ira mal, quoi. Les filles, c'est très différent. Les filles, c'est comme dans une armoire, je disais. La fille, dès que vous touchez quelque chose, vous avez tout d'un coup. Pas très joli comme image, je suis désolé, mais ça permet de comprendre. Et bien c'est pour ça, un garçon, vous allez pouvoir flirter. Vous en foutez, vous fermez le tiroir un peu, vous ouvrez un autre après et tout ira bien. La fille, si vous jouez avec ça, eh bien vous brisez tout. Parce que les filles, vous allez vous donner tout entier. Tout entière. Le garçon, il va donner qu'une partie. Il croira qu'il aura tout donné, hein. Mais il va donner qu'un tout petit bout. Hein. Méfiez-vous les filles, parce que les gars, ils sont comme ça. Vous croyez que, ah, il m'aime, il m'a dit qu'il m'aimait. Mais non, ils sont en train. C'est pas un secret de confession, on n'a rien dit hier. Il m'a dit qu'il m'aimait. Eh oui, c'est vrai, il te dit ça, mais il est capable de passer à autre chose, si c'est pas à une autre. Donc pour vous dire de faire attention à ça. Autre chose. Donc je vous parlais un peu en présentant de la tenue. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais vous voyez cet aspect commode ou armoire, on comprend rien qu'en regardant les différences anatomiques entre un garçon et une fille, entre un homme et une femme. Le garçon, ça va être très simple, très court, mais vous vous en souviendrez. Le garçon, tout ce qui touche à la relation sexuelle est à l'extérieur de lui. La fille, c'est à l'intérieur d'elle-même. Et finalement, c'est beaucoup plus diffus dans la personnalité féminine. Donc soyez vigilants à cela aussi. Ça dit tout de la psychologie, ça dit tout de la manière dont on va pouvoir entrer en relation avec un garçon ou une fille, ça va être différent. Parce que donc, le garçon, lui, c'est extérieur. Donc finalement, les fleurs qu'il va avoir, ça ne va pas tellement le toucher. C'est-à-dire souvent, il est moins mature que les filles. Les filles, vous êtes plus mûres avant, donc vous allez vous donner comme si c'était le véritable amour et l'unique amour, comme si vous deviez vous marier avec ce gars-là. Et comme tout est à l'intérieur de vous, vous allez tout donner d'un coup. Et voilà. Alors donc, soyez vigilants là-dessus. Maintenant, pensez une chose, le corps. Votre corps. Donc, que vous devez respecter par la pudeur, par la chasteté, avec la tenue vestimentaire. Ça aussi, c'est un grand drame de la société d'aujourd'hui. Vous avez des sociétés de vêtements, des prêt-à-porter, qui vont tout faire pour mettre toutes les formes en valeur. Alors, autrefois, il y avait que les filles qui étaient touchées par ça. Alors, on savait habiller une fille pour justement la déshabiller. Maintenant, ça touche aussi les garçons avec les lobbies homosexuels. Vous avez des garçons qui mettent leurs affaires en valeur, c'est pas très délicat. Alors vous avez pas trop, ça, j'ai pas trop vu ça chez vous, mais vous avez des gars maintenant, ils portent leurs pantalons en dessous de la ceinture, quoi. Alors, on a du mal à demander comment ça peut finir. C'est aussi ridicule que les filles qui ont des décolletés. On voit des filles qui vont le dimanche à la messe avec un décolleté, voilà, jusque-là, quoi. Plus que bon genre. Ça s'appelle la pudeur. Sachez habiller votre corps pour mettre en valeur ce qu'il y a à mettre en valeur dans le corps. Il y a seulement deux choses du corps que dans toute la grande tradition d'habillement depuis bien avant Jésus-Christ. Les seules choses du corps que l'on montre, c'est le visage et les mains. Tout le reste, on cache. Même les filles. Les chevilles, oui, les chevilles aussi, on cache les chevilles. Vous avez des gars qui font des fantasmes sur en voyant des chevilles de filles. Donc, faites attention à votre fille. Vous n'avez jamais vu le film La Reine d'Angleterre qui se met. Non, qui se fait bout le. Non, c'est pas les visiteurs. C'est un vrai. Et la fille, elle monte ses chevilles. Pourquoi est-ce qu'on garde seulement découvert le visage et les mains? Parce que notre corps, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de relation. Et on communique avec le visage, avec les mains aussi. On peut se parler, les Italiens parlent avec les mains. On se serre la main quand on se dit bonjour, au moins dans notre société. Avec le visage, on peut parler, et dans le regard, on se dit tout. Ceux qui s'aiment n'ont pas besoin de se dire qu'ils s'aiment, ils se disent tout à travers le regard. Pensez que le corps, c'est. On dit que le corps, c'est le média qui nous permet d'entrer en relation. Et dans le mariage en particulier, les époux chrétiens vont entrer en relation avec leur corps. Et ils donneront tout leur corps quand ils auront été capables de donner tout leur être spirituel d'abord, qui est plus important que le corps. Le corps est vivant par l'âme, le corps est vivant par l'esprit, et il ne faut donner votre corps, même pour un flirt, il ne faut donner votre corps que lorsque votre esprit est capable d'assumer tout le corps et que votre esprit s'est donné complètement à l'autre, à la personne que l'on veut aimer. C'est pourquoi l'expression de l'amour, regardez-vous les garçons, l'expression de l'amour passe d'abord par le dialogue. Avant de donner son corps comme des bêtes, on parle. On se parle. Et on s'assure que la personne à qui on va donner son corps, eh bien, s'engage dans le même don. Vous voyez, ça se passe dans un dialogue. Parce que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres animaux. Nous sommes des hommes avec un esprit. Et il faut qu'il y ait cette communion, il faut qu'il y ait cette amitié purement spirituelle avant qu'il s'établisse dans un dialogue, avant de donner le corps. Et vous voyez ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, c'est que c'est gardé très précisément dans la forme du sacrement du mariage. On demande aux époux, aux futurs époux, avant qu'ils puissent mener vie commune, de faire ce qu'on appelle l'échange des consentements, qui est un dialogue dans lequel on confirme, ils vérifient tous les deux, ils le font publiquement en plus, qu'ils sont prêts à donner spirituellement tout leur être, leur personne à l'autre, et à recevoir, que l'autre est capable de recevoir aussi purement spirituellement tout l'autre. Cet échange des consentements, ça exprime qu'il faut un dialogue, il faut une communion spirituelle avant la communion des corps, avant l'échange du corps, avant le don du corps. Et voyez, c'est la règle de l'amour, ça. C'est la règle de l'amitié, parce que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes des hommes. Eh bien, il faut l'avoir établi avant dans un dialogue. Et c'est pourquoi, quand on est baptisé, l'Église demande ceci, que la vie commune, effectivement, la vie commune qui est bénie, qui est autorisée par l'Église, la vie d'époux, d'épouse, le don du corps, la fécondité, etc. Tout cela, c'est éminemment béni par Dieu et par l'Église. Et c'est tellement grand qu'un être puisse donner jusqu'à son corps à un autre, que c'est comme scellé dans le sceau, dans l'écrin du sacrement du mariage. Quand on a la foi, quand on en vit. Avec cette forme-là de l'échange des consentements dans le mariage, avant donc de mener la vie commune. Si vous vous engagez dans une vie commune avant de vous marier, alors au-delà du fait simplement que c'est mal, que dans votre société ça ne se fait pas et donc il ne faut pas le faire, comment t'es le premier de tes cousins à faire ça, on n'a jamais fait ça dans la famille, vous imaginez les pressions familiales qu'il peut y avoir. Avant même de penser à cela, dites-vous que c'est la forme normale de l'amour humain, de se parler et de s'engager donc publiquement pour fortifier l'engagement et l'amour spirituel avant de donner son corps. Donc je ne vous dis pas, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous vous engagez dans une vie commune avec lui ou elle, si vous vous engagez dans une vie commune, eh bien c'est comme si vous étiez marié, quoi. Vous vivez en état de marié. On ne doute pas que vous ayez fait cet échange de consentement avant, que vous soyez bien sûr la personne à qui vous donnez, mais vous vivez comme si vous étiez des jeunes qui fréquentent comme ça, qui vivent d'une vie commune avant de se marier, vivent comme s'ils étaient déjà mariés. Et donc ça brise évidemment, ce n'est pas respectueux du sacrement lui-même du mariage. C'est ça que la reine des mariés, ils sont déjà mariés. Sachez que si deux personnes ne sont pas baptisées, elles ont le droit de s'engager dans le mariage civil, donc voilà, elles vivent une vie commune. Leur première union corporelle est considérée par l'Église comme le sacrement du mariage. Et si ces personnes-là demandaient le baptême, on leur donnerait le baptême, mais on ne les marierait pas, parce qu'elles étaient déjà mariées par le don, par la vie commune qu'elles mènent. Donc vraiment, cette vie commune-là, c'est le mariage. C'est quand on vit ça dans la foi, c'est le moyen que Dieu nous donne, eh bien, de pouvoir nous donner, nous recevoir mutuellement dans un véritable amour, éclairé par la présence de Dieu, etc. Voilà. Donc, on voulait distribuer des petits bouts de papier. Vous avez peut-être posé quelques questions. Pas rapide, pour comme ça garde l'anonymat et le respect de chacun. Donc, il n'y a pas de questions idiotes et ne craignez pas de les poser.
Voilà, là c'était les papiers qu'on vous distribue. Maintenant, vous allez chacun, ceux qui veulent, écrire une question.
Je vais demander le silence. Vous êtes une personne unique. La personne, ce qu'on appelle la personne, c'est le sommet de tout votre être. Aussi bien de votre corps, que de votre âme, que de votre passion, vos forces, vos pulsions, enfin tout passe, tout se noue dans la personne. C'est une pyramide. L'être humain, c'est très complexe. C'est un esprit qui fait de haute voltige, on est capable de posséder l'univers entier, et puis on a un corps qui se comporte comme une tête. Et tout ça, c'est unifié par la personne. Le sens de la vie, c'est éclairé par cette cohérence de la personne humaine. Toute votre vie, vous devez essayer de rassembler un petit peu tous les éléments de votre personnalité et les unir au niveau de la personne. Je ne sais pas si ça éclaire ce que vous a dit le Père Paul. Le sens de la vie aussi nous est donné par notre foi dans le Christ. On tombe pas dans le néant, on tombe pas dans la dissolution totale. Il y a même pour notre corps lui-même une résurrection. Hein, on parlait de respect du corps. Pourquoi vous vous battez les filles là? Ça, c'est bien les filles. Hein. J'ai oublié de dire ça pour les gars, les filles, là, c'est bien. Parce que les gars, quand ils se battent, ils s'en foutent, quoi, ça ne compte pas. Les filles, on a dit quoi après il faut-il préserver sa virginité pour les filles comme pour les garçons, les relations sexuelles avant le mariage, etc. À quel âge est-ce qu'on peut se marier, est-ce qu'on peut flirter, etc. Ça c'est une question. Et puis là, une question traumatisante, est-ce un péché de sortir avec une fille ou avec un garçon quand on n'est pas marié? Alors, pour répondre très clairement, et pour éclairer votre conscience sur cette question, franchement,
non.
Oui. Mais dites-vous une chose aussi, c'est que pour vous, humainement, devant Dieu, si vous voulez, le péché, c'est ce qui est le plus grave. D'accord ? Devant Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu, peut nous faire tomber en enfer. Donc, in fine, dans la finalité de la vie humaine, c'est ce qu'il y a de plus grave. Mais pour vous, au point où vous en êtes, dans la fabrication de votre personnalité d'adulte, eh bien, c'est pas ça le plus grave, quoi. Et on ne va pas vous demander, t'as flirté avec cette fille, mais c'est pas trop grave, c'est un enfer. C'est pas tellement un problème, quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça brise votre cœur. Donc, dans le moindre flirt, vous allez engager votre vie. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui est vieux maintenant, il est sorti dans les années 80, c'est un peu plus ma génération. J'aimais beaucoup ce film-là, c'est Pretty Woman. J'aime beaucoup ce film, c'est pas très édifiant, je suis désolé, mais je vais en parler comme ça. C'est un petit peu Cendrillon étant moderne. Vous connaissez l'histoire, c'est cette fille qui est prostituée, voilà, tout simplement. Elle rencontre le prince charmant. Et sa copine, qui est prostituée aussi, bien sûr, elle lui dit, fais tout ce que tu veux avec les mecs, sauf ne les embrasse jamais. Vous n'avez pas remarqué ça, ce petit détail dans le film.
Elle arrive.
On va pas rentrer dans les détails. Et pourquoi? Et bien parce que le baiser, le flirt, c'est l'essence du souffle. C'est quelque chose de très 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 profond dans l'homme, dans l'être humain, dans la personne humaine. Donc le baiser, ça ne peut pas vous laisser indifférent. C'est vraiment quelque chose qui peut faire grandir l'amour. Dans toutes les dimensions de l'amour humain, donc corps, pardon, compris. Et c'est pourquoi, eh bien, moi je vous encourage à ne surtout pas jouer avec ça et ne surtout pas le faire, parce que ça va foutre en l'air votre capacité ultérieure à aimer. Alors la question n'est pas du point de vue de Dieu, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Dieu qui nous aime, vous l'avez vécu hier soir, vous pouvez avoir fait tous les crimes de la terre, mais vous pourrez toujours vous retourner devant Dieu et Dieu vous pardonnera toujours et Dieu vous redonnera cette liberté. Et si vous avez brisé votre cœur, oui, Dieu vous donnera la liberté d'aimer, de nouveau, mais pour vous, votre cœur gardera la cicatrice. Et donc, réellement, existentiellement, humainement, ce sera toujours beaucoup plus difficile. Et c'est facile, hein. Moi je peux vous donner des exemples. Le gars, il a flirté toute sa vie, toute sa jeunesse, toute son adolescence avec une fille, deux filles, trois filles, quatre filles. Il a 25 ans, il se marie, finalement il s'arrête sur une fille. Eh bien, c'est une confidence que je peux vous révéler. Quand il s'unit à celle qui est aujourd'hui son épouse, il ne sait plus qui il embrasse. Il ne sait plus qui il aime. Il ne sait plus avec qui il est. Il a tellement flirté auparavant que, voilà quoi, un baiser de plus, un baiser de moins, ça compte pas. Donc vous voyez, ça tue l'amour. Et bon, ça va parce qu'il tient dans sa fidélité. Mais si un jour il rencontre une fille qui est, finalement, elle est plus sympa que celle que j'ai actuellement, et bien c'est fini. Donc voilà, c'est pas parce que c'est grave et que c'est un péché, mais c'est parce que ça empêche véritablement de c'est pas le bon temps. Oui, parce que la question de la virilité pour les garçons, c'est plus subtil. Pour les filles, oui, évidemment, si je vous dis qu'il ne faut pas jouer avec le baiser, il ne faut pas non plus jouer avec le reste. Donc, vous gardez votre corps, mais les garçons aussi, dans une grande intégrité pour le jour où vous pourrez vivre en liberté totale, sans crainte, sans peur, sans angoisse, sans rien, vis-à-vis de votre époux, le véritable amour. À quel âge peut-on se marier et flirter? C'est quand vous êtes mûr, quand vous êtes prêt, donc quand vous possédez votre vie, quand vous avez rassemblé toutes les puissances de votre être dans votre personne et que votre personne est capable d'un acte de don généreux vis-à-vis de Dieu. L'âge pour se marier, c'est l'âge pour rentrer au couvent ou pour rentrer au séminaire. Comment savoir si quelqu'un vous aime vraiment? Il faut lui demander. Mais en lui demandant, il faut être sûr que la personne est capable de s'assumer dans une vraie maturité pour se donner dans l'amour, dans l'amitié. Sinon, mais vous devez voir tout de suite, ce mec-là il est complètement immature. Ça se voit. En général, vous êtes immature. À part les 20 ans, on en reparlera et c'est un plaisir. Vous êtes 20 ans. Ça va? Je vais vous parler de moi. Alors, ça va, je suis désolé, on va changer de position. Quelle est la signification de la soutane, la mort?
D'accord.
Hein? C'est en forme de croix. Donc ça signifie... C'est, en fait, quand je dis la mort, on ne peut plus, dans la foi chrétienne, nous ne pouvons plus dissocier la mort de la résurrection. Donc le sens de la soutane, c'est aussi le sens de la résurrection. Et c'est le signe que je décide de mourir à moi-même, si vous voulez, mais pour vivre pour Dieu. La véritable couleur sacerdotale du prêtre, c'est le blanc. Tout à l'heure, c'est avec vous dans la basilique, j'avais un surplis blanc. Et donc ma vie est au cœur. C'est H-O-E-U-R. Ma vie est au cœur. Ma vie est dans l'église. Ma vie est dans l'animation de la liturgie, de la prière, etc. Tout le reste, le monde profane, je devrais être en noir. Et comme je vous parle là, ça fait partie de mon ministère de prêtre. Mais pas si longtemps que ça, les prêtres, dès qu'ils devaient prêcher, parler, enseigner, ils devaient être surplis, blancs. Hein? Donc voilà, la soutane, c'est ce que ça signifie. C'est signe d'une consécration à Dieu. Alors, une question très, très, très intime, mais après tout, j'ai bientôt 40 ans, donc je peux répondre. Avez-vous déjà flirté? Je vais mourir de Paris. Nous sommes à un moment historique, parce que je crois que c'est la première fois que je me réveille ce genre de choses. Je ne sais pas qui va décevoir le plus, si c'est les gars ou les filles. Et donc, vraiment, non, je n'ai jamais sorti. Quand on est derrière, les garçons de voix sont hyper calmes, pragmatiques. Alors, par contre, tu tombes amoureux. Non. Alors, une question. Pour votre prêtre, faut-il n'avoir eu aucune relation? C'est pas une raison de nécessité. Voilà, c'est pas comme ça. C'est pas, il vaut mieux. C'est tout. Quand on se donne, on se donne. Le tout, c'est que si on s'engage dans le sacerdoce, il faut être libre, il faut pas être marié, il faut pas être engagé réellement. Faut pas être papa, par exemple. Si j'avais eu un gamin avec une fille ailleurs, vraiment, là, j'aurais pas pu m'engager dans le sacerdoce. Parce qu'il faut quand même être responsable et cohérent dans ses actes. Et ensuite, encore cette question. Est-ce un péché d'avoir eu une relation? Oui, c'est un péché, mais la gravité n'est pas là. La gravité, c'est que ça vous brise. Donc, mes parents, comment ils ont réagi? Mal, évidemment, mais bien maintenant. Pourquoi avez-vous décidé d'être prêtre? Voilà, je peux vous raconter un peu mon histoire en deux mots, en deux minutes. Parce que je ne sais pas que mon histoire, elle vaille plus que celle d'un autre. Hein. Mais je suis rentré au séminaire à 25 ans. Et pourquoi je suis rentré au séminaire à 25 ans? Il y avait des gars, ils rentraient au séminaire dès 20 ans. Même dès 18 ans, le mec, il passait son bac, pof, il rentre au séminaire. Moi, 18 ans, je voulais tout sauf ça, quoi. Mais parce que, en fait, j'étais pas mûr moi-même. J'étais pas capable d'assumer tout mon être, j'étais pas capable ni de me donner dans une amitié vis-à-vis d'une fille ou même une amitié générale, quoi. Je sentais qu'au fond de moi-même, je n'avais pas assumé encore tout ce que j'étais pour être capable de me donner. Donc j'étais pas capable dans ce séminaire, mais j'étais pas capable non plus de dire à une fille, ah, tu sais, je t'aime, je vais me marier avec toi. J'étais pas capable, quoi, tout simplement. Et donc, en poursuivant mes études, j'ai eu l'occasion de faire de tomber amoureux, certainement plus d'une fois, mais j'ai toujours attendu le moment d'être capable pour, pour avancer dans une amitié plus délicate vis-à-vis d'une jeune fille, par exemple. J'ai attendu le moment où je serais capable, où je pouvais me sentir mieux suffisamment pour m'engager dans une relation qui m'engageait. Parce que toute une relation, même le faire du coin de la rue, finalement ça nous engage, et c'est pour ça que ça nous brise. Et donc j'ai attendu ce moment-là, et dans le moment où j'attendais, parce que j'étais amoureux, donc, dans le moment où j'attendais de pouvoir m'engager, eh bien, est revenue aussi dans mon cœur la question de la vocation. Parce que je connaissais des prêtres, puis je me disais, ce serait quand même c'est une possibilité, quoi. Et j'ai voulu discerner cela dans la prière, en me disant, voilà, Seigneur, parce que j'ai toujours été assez fidèle donc à prier et tout, enfin, j'avais des engagements dans vis-à-vis de ma foi. Et donc, c'est dans la prière que j'ai dit au Seigneur, j'ai pas dit, dis-moi ce que je dois faire. Éclaire mon âme pour voir si j'ai cette maturité suffisante pour pouvoir m'engager dans une voie ou dans une autre. Et c'était très simple, hein. Ça a duré un déclic, quoi, un quart de seconde, mais la prière a duré longtemps. Mais ma réponse était tout de suite. Et je me suis dit, aujourd'hui, top, je peux vous donner la date, l'heure même, aujourd'hui, je me sens mûr, je me sens prêt à m'engager. Et je t'ai posé cette question de la vocation juste avant, et donc j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas, je te donne ma vie. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors après, j'ai écrit à la jeune fille, et là, c'est un drame. Et c'est toujours un drame, d'ailleurs. on n'avait jamais flirté, mais quand même, son cœur était déjà brisé. Bon, mais moi, j'étais pour rien, pour le coup. Donc, je suis en passé une heure comme ça. Et puis, et voilà, je vous ai raconté ma vie, vous êtes contents. Peut-être avoir des enfants, puis divorcer et devenir prêtre. Non. Si on est marié, on est marié. L'Église ne reconnaît pas le divorce, donc le mariage demeure. Donc, une fois qu'on est marié, on ne peut plus être prêtre. Engagement égale mariage. Oui, mariage égale engagement. C'est un vrai engagement. Alors ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que ce vrai amour saint S-A-I-N-T et un amour saint S-A-I-N est-il forcément saint S-A-I-N-T? Oui, c'est lié les deux, la santé et la sainteté. La sainteté, c'est la présence de Dieu dans votre amour. Donc, en particulier, le mariage garantit la sainteté de l'amour. Et évidemment, un amour saint S-A-I-N, pourvu qu'il respecte les lois du mariage, sera saint S-I-N-T. À quel âge, après vous, peut-on entrer d'une relation mais dès aujourd'hui, vous pouvez avoir une relation, une amitié sérieuse avec qui vous voulez, et je vous encourage à entretenir, à nourrir vos amitiés pour le jour où vous serez capable. Maintenant, c'est fini.
Un grand merci.